Chapitre 10. Ce que c'était que Diane de Méridor, le consentement, le mariage. Voilà, sur mon âme, un homme étrange, dit Bussy. Oh oui, bien étrange, n'est-ce pas, monsieur? Car son amour se formulait vis-à-vis de moi avec toute l'âpreté de la haine. Gertrude, en revenant, me trouva donc plus triste et plus épouvantée que jamais. Elle essaya de me rassurer, mais il était visible que la pauvre fille était aussi inquiète que moi-même. Ce respect glacé, cette ironique obéissance, cette passion contenue et qui vibrait en notes stridentes dans chacune de ses paroles, étaient plus effrayantes que ne l'eût été une volonté nettement exprimée et que j'eusse pu combattre. Le lendemain était un dimanche. Depuis que je me connaissais, je n'avais jamais manqué d'assister à l'office divin. J'entendis la cloche de l'église de Sainte-Catherine qui semblait m'appeler. Je vis tout le monde s'acheminer vers la maison de Dieu. Je m'enveloppai d'un voile épais et, suivi de Gertrude, je me mêlai à la foule des fidèles qui accouraient à l'appel de la cloche. Je cherchais le coin le plus obscur et j'allais m'y agenouiller contre la muraille. Gertrude se plaça comme une sentinelle entre le monde et moi. Pour cette fois-là, ce fut inutile. Personne ne fit ou ne parut faire attention à nous. Le surlendemain, le comte revint et m'annonça qu'il était nommé grand veneur. L'influence de monsieur le duc d'Anjou lui avait fait donner cette place presque promise à un des favoris du roi, nommé monsieur de Saint-Luc. C'était un triomphe auquel il s'attendait à peine lui-même. « En effet, dit Bussy, cela nous étonna tous. » Il venait m'annoncer cette nouvelle, espérant que cette dignité hâterait mon consentement. Seulement, il ne pressait pas, il n'insistait pas, il attendait tout de ma promesse et des événements. Quant à moi, je commençais d'espérer que le duc d'Anjou, me croyant morte et le danger n'existant plus, je cesserais d'être engagé au comte. 7 autres jours s'écoulèrent sans rien amener de nouveau que 2 visites du comte. Ces visites, comme les précédentes, furent froides et respectueuses. Mais je vous ai expliqué ce qu'avait de singulier, et je dirais presque de menaçant, cette froideur et ce respect. Le dimanche suivant, j'allai à l'église, comme j'avais déjà fait, et repris la même place que j'avais occupée 8 jours auparavant. La sécurité rend imprudente. Au milieu de mes prières, mon voile s'écarta. Dans la maison de Dieu, d'ailleurs, je ne pensais qu'à Dieu. Je priais ardemment pour mon père, quand tout à coup je sentis que Gertrude me touchait le bras. Il me fallut un second appel pour me tirer de l'espèce d'extase religieuse dans laquelle j'étais plongé. Je levai la tête, je regardai machinalement autour de moi, et j'aperçus, avec terreur, appuyé contre une colonne, le duc d'Anjou qui me dévorait des yeux. Un homme qui semblait son confident plutôt que son serviteur était près de lui. « C'était Aurilly, dit Bussy, son joueur de lutte. »« En effet, répondit Diane, je crois que c'est ce nom que Gertrude me dit plus tard. »« Continuez, madame, dit Bussy, continuez par grâce, je commence à tout comprendre. » Je ramenai vivement mon voile sur mon visage, il était trop tard, il m'avait vu, et s'il ne m'avait point reconnu, ma ressemblance, du moins, avec cette femme qu'il avait aimée et qu'il croyait avoir perdue, venait de le frapper profondément. Mal à l'aise sous son regard que je sentis peser sur moi, je me levai et m'avançai vers la porte. Mais à la porte, je le retrouvai, il avait trempé ses doigts dans le bénitier et me présentait l'eau bénite. Je fis semblant de ne pas le voir, et je passai sans accepter ce qu'il m'offrait. Mais sans que je me retournasse, je compris que nous étions suivis. Si j'eusse connu Paris, j'eusse essayé de tromper le duc sur ma véritable demeure, mais je n'avais jamais parcouru d'autre chemin que celui qui conduisait de la maison que j'habitais à l'église. Je ne connaissais personne à qui je pusse demander une hospitalité d'un quart d'heure. Pas d'amis, un seul défenseur que je craignais plus qu'un ennemi, voilà tout. « Oh mon Dieu !» murmura Bussy, « pourquoi le ciel, la providence ou le hasard ne m'ont-ils pas conduit plus tôt sur votre chemin ?» Diane remercia le jeune homme d'un regard. « Mais pardon, reprit Bussy, je vous interromps toujours, et cependant je meurs de curiosité. Continuez, je vous en supplie. » Le même soir, monsieur de Montsoreau revint. Je ne savais point si je devais lui parler de mon aventure lorsque lui-même fit cesser mon hésitation. Vous m'avez demandé, dit-il, s'il vous était défendu d'aller à la messe, et je vous ai répondu que vous étiez maîtresse souveraine de vos actions et que vous feriez mieux de ne pas sortir. Vous n'avez pas voulu m'en croire. Vous êtes sorti ce matin pour aller entendre l'office divin à l'église de Sainte-Catherine. Le prince s'y trouvait, par hasard, ou plutôt par fatalité, et vous y a vu. C'est vrai, monsieur, et j'hésitais à vous faire part de cette circonstance, car j'ignorais que le prince m'avait reconnu pour celle que je suis, ou s'il m'a vu, l'avait simplement frappé. Votre vue l'a frappé, votre ressemblance avec la femme qu'il regrette lui a paru extraordinaire. Il vous a suivi et a pris des informations, mais personne n'a rien pu lui dire et personne ne sait rien. Ah, mon Dieu, monsieur, m'écriai-je. Le duc est un cœur sombre et persévérant, dit monsieur de Montsoreau. Oh, il m'oubliera, je l'espère. Je n'en crois rien. On ne vous oublie pas quand on vous a vu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous oublier, moi, et je n'ai pas pu. Et le premier éclair de passion que j'ai remarqué chez monsieur de Montsoreau passa en ce moment dans les yeux du comte. Je fus plus effrayé de cette flamme qui venait de jaillir de ce foyer qu'on eût cru éteint que je ne l'avais été le matin à la vue du prince. Je demeurai muette. Que comptez-vous faire? Me demanda le comte. Monsieur, ne pourrais-je changer de maison, de quartier, de rue, aller demeurer à l'autre bout de Paris, ou mieux encore retourner dans l'Anjou? Tout cela serait inutile, dit monsieur de Montsoreau en secouant la tête. C'est un terrible limier que monsieur le duc d'Anjou. Il est sur votre trace. Maintenant, allez où vous voudrez. Il la suivra jusqu'à ce qu'il vous joigne. Oh, mon Dieu, vous m'effrayez. Ce n'est point mon intention. Je vous ai dit ce qui est, et pas autre chose. Alors c'est moi qui ferai à mon tour la question que vous m'adressiez tout à l'heure. Que comptez-vous faire, monsieur? Hélas, reprit le comte de Montsoreau avec une amère ironie, je suis un homme de pauvre imagination, moi. J'avais trouvé un moyen. Ce moyen ne vous convient pas, j'y renonce, mais ne me dites pas d'en chercher d'autres. Eh, mon Dieu, repris-je, le danger est peut-être moins pressant que vous ne le croyez. C'est ce que l'avenir nous apprendra, madame, dit le comte en se levant. En tout cas, je vous le répète, madame de Montsoreau aura d'autant moins à craindre du prince que la nouvelle charge que j'occupe me fait relever directement du roi, et que moi et ma femme nous trouverons naturellement sous la protection du roi. Je ne répliquai que par un soupir. Ce que disait là le comte était plein de raison et de vraisemblance. Monsieur de Montsoreau attendit un instant, comme pour me laisser tout le loisir de lui répondre, mais je n'en eus pas la force. Il était debout, tout prêt à se retirer. Un sourire amer passa sur ses lèvres, il s'inclina et sortit. Je crus entendre quelques imprécations s'échapper de sa bouche dans l'escalier. J'appelai Gertrude. Gertrude avait l'habitude de se tenir ou dans le cabinet ou dans la chambre à coucher quand venait le comte. Elle accourut. J'étais à la fenêtre, enveloppé dans les rideaux, de façon que, sans être aperçu, je puisse voir ce qui se passait dans la rue. Le comte sortit et s'éloigna. Nous restâmes 1 heure à peu près, attentives à tout examiner, mais personne ne vint. La nuit s'écoula sans rien amener de nouveau. Le lendemain, Gertrude, en sortant, fut accostée par un jeune homme qu'elle reconnut pour être celui qui, la veille, accompagnait le prince. Mais, à toutes ses instances, elle refusa de répondre. À toutes ses questions, elle resta muette. Le jeune homme, lassé, se retira. Cette rencontre m'inspira une profonde terreur. C'était le commencement d'une investigation qui, certes, ne devait point s'arrêter là. J'eus peur que monsieur de Montsoreau ne vînt pas le soir et que quelque tentative ne fût faite contre moi dans la nuit. Je l'envoyai chercher. Il vint aussitôt. Je lui racontai tout et lui fis le portrait du jeune homme d'après ce que Gertrude m'en avait rapporté. C'est d'Aurilly, dit-il. Qu'a répondu Gertrude? Gertrude n'a rien répondu. Monsieur de Montsoreau réfléchit un instant. Elle a eu tort, dit-il. Comment cela? Oui, il s'agit de gagner du temps. Du temps? Oui, aujourd'hui je suis encore dans la dépendance de monsieur le duc d'Anjou, mais dans 15 jours, dans 12 jours, dans 8 jours peut-être, c'est le duc d'Anjou qui sera dans la mienne. Il s'agit donc de le tromper pour qu'il attende. Oh mon Dieu! Mais sans doute l'espoir le rendra patient. Un refus complet le poussera vers quelque partie désespérée. Monsieur, écrivez à mon père, m'écriai-je. Mon père accourra et ira se jeter aux pieds du roi. Le roi aura pitié d'un vieillard. Ce selon la disposition d'esprit où sera le roi, et selon qu'il sera dans sa politique d'être pour le moment l'ami ou l'ennemi de monsieur le duc d'Anjou. D'ailleurs, il faut 6 jours à un messager pour aller trouver votre père. Il faut 6 jours à votre père pour venir. Dans 12 jours, monsieur le duc d'Anjou aura fait, si nous ne l'arrêtons pas, tout le chemin qu'il peut faire. Et comment l'arrêter? Monsieur de Montsoreau ne répondit point. Je compris sa pensée et je baissai les yeux. Monsieur, dis-je après un moment de silence, donnez vos ordres à Gertrude et elle suivra vos instructions. Un sourire imperceptible passa sur les lèvres de monsieur de Montsoreau à ce premier appel de ma part à sa protection. Il causa quelques instants avec Gertrude. Madame, me dit-il, je pourrais être vu sortant de chez vous. 2 ou 3 heures nous manquent seulement pour attendre la nuit. Me permettez-vous de passer ces 2 ou 3 heures dans votre appartement? Monsieur de Montsoreau avait presque le droit d'exiger, et il se contentait de demander. Je lui fis signe de s'asseoir. C'est alors que je remarquai la suprême puissance que le comte avait sur lui-même. À l'instant même, il surmonta la gêne qui résultait de notre situation respective, et sa conversation, à laquelle cette espèce d'âpreté que j'ai déjà signalé donnait un si puissant caractère, commença à varier et attachante. Le comte avait beaucoup voyagé, beaucoup vu, beaucoup pensé, et j'avais au bout de 2 heures compris toute l'influence que cet homme étrange avait prise sur mon père. Bussy poussa un soupir. La nuit venue, sans insister, sans demander davantage, et comme satisfait de ce qu'il avait obtenu, il se leva et sortit. Pendant la soirée, nous nous remîmes, Gertrude et moi, à notre observatoire. Cette fois, nous vîmes distinctement 2 hommes qui examinaient la maison. Plusieurs fois, ils s'approchèrent de la porte. Toute lumière intérieure était éteinte, ils ne purent nous voir. Vers 11 heures, ils s'éloignèrent. Le lendemain, Gertrude, en sortant, retrouva le même jeune homme à la même place. Il vint de nouveau à elle et l'interrogea comme il avait fait la veille. Ce jour-là, Gertrude fut moins sévère et échangea quelques mots avec lui. Le jour suivant, Gertrude fut plus communicative. Elle lui dit que j'étais la veuve d'un conseiller qui, resté sans fortune, vivait fort retiré. Il voulut insister pour en savoir davantage, mais il fallut qu'il se contentât pour l'heure de ses renseignements. Le jour après, Aurilly parut avoir conçu quelques doutes sur la véracité du récit de la veille. Il parla de l'Anjou, de Beauger, et prononça le nom Méridor. Gertrude répondit que tous ces noms lui étaient parfaitement inconnus. Alors il avoua qu'il était au duc d'Anjou, que le duc d'Anjou m'avait vu et était amoureux de moi. Et puis, à la suite de cet aveu, vinrent des offres magnifiques pour elle et pour moi. Pour elle, si elle voulait introduire le prince près de moi, pour moi, si je voulais le recevoir. Chaque soir, monsieur de Montsoreau venait, et chaque soir, je lui disais où nous en étions. Il restait alors depuis 8 heures jusqu'à minuit, mais il était évident que son inquiétude était grande. Le samedi soir, je le vis arriver, plus pâle et plus agité que de coutume. « Écoutez, me dit-il, il faut tout promettre pour mardi ou mercredi. »« Tout promettre, et pourquoi » m'écriai-je. « Parce que monsieur le duc d'Anjou est décidé à tout, qu'il est bien en ce moment avec le roi, et qu'il n'y a rien par conséquent à attendre du roi. » Et d'ici mercredi, doit-il se passer quelque événement qui viendra à notre aide? Peut-être, j'attends de jour en jour cette circonstance qui doit mettre le prince dans ma dépendance. Je la pousse, je la hâte, non seulement de mes vœux, mais de mes actions. Demain, il faut que je vous quitte, que j'aille à Montereau. Il le faut, répondis-je, avec une espèce de terreur mêlée d'une certaine joie. « Oui, j'ai là un rendez-vous indispensable pour hâter cette circonstance dont je vous parlais. Et si nous sommes dans la même situation, que faudra-t-il donc faire, mon Dieu? Que voulez-vous que je fasse contre un prince, madame, quand je n'ai aucun droit de vous protéger? Il faudra céder à la mauvaise fortune. « Oh, mon père, m'écriai-je !» Le comte me regarda fixement. Oh, monsieur, qu'avez-vous donc à me reprocher? Rien, au contraire. Mais n'ai-je pas été dévoué comme un ami, respectueux comme un frère? Vous vous êtes en tout point conduit en galant homme. N'avais-je pas votre promesse? Oui. Voulais-je rappeler une seule fois? Non. Et cependant, quand les circonstances sont telles que vous vous trouvez placé entre une position honorable et une position honteuse, vous préférez d'être la maîtresse du duc d'Anjou à être la femme du comte de Montsoreau? Je ne dis pas cela, monsieur. Mais alors, que décidez-vous donc? Je suis décidé à être la comtesse de Montsoreau plutôt que la maîtresse du duc d'Anjou. Plutôt que la maîtresse du duc d'Anjou, l'alternative est flatteuse. Je me tue. N'importe, dit le comte, vous entendez que Gertrude gagne jusqu'à mardi, et mardi nous verrons. Le lendemain, Gertrude sortit comme d'habitude, mais elle ne vit point Aurilly. À son retour, nous fûmes plus inquiètes de son absence que nous ne l'eussions été de sa présence. Gertrude sortit de nouveau sans nécessité de sortir pour le rencontrer seulement, mais elle ne le rencontra point. Une troisième sortie fut aussi inutile que les deux premières. J'envoyai Gertrude chez monsieur de Montsoreau. Il était parti et on ne savait point où il était. Nous étions seuls et isolés. Nous nous sentîmes faibles. Pour la première fois, je compris mon injustice envers le comte. « Oh, madame, s'écria Bussy, ne vous hâtez donc pas de revenir ainsi à cet homme. Il y a quelque chose dans toute sa conduite que nous ne savons pas, mais que nous saurons. » Le soir vint, accompagné de terreurs profondes. J'étais décidé à tout plutôt que de tomber vivante aux mains du duc d'Anjou. Je m'étais muni de ce poignard, et j'avais résolu de me frapper aux yeux du prince au moment où lui et ses gens essaieraient de porter la main sur moi. Nous nous barricadâmes dans nos chambres. Par une négligence incroyable, la porte de la rue n'avait pas de verrou intérieur. Nous cachâmes la lampe et nous nous plaçâmes à notre observatoire. Tout fut tranquille jusqu'à 11 heures du soir. À 11 heures, 5 hommes débouchèrent par la rue Saint-Antoine, parurent tenir conseil et s'en allèrent s'embusquer dans l'angle de l'hôtel des Tournelles. Nous commençâmes à trembler. Cet homme était probablement là pour nous. Cependant, ils se tinrent immobiles. Un quart d'heure à peine s'écoula. Au bout d'un quart d'heure, nous vîmes paraître deux hommes au coin de la rue Saint-Paul. La lune qui glissait entre les nuages permit à Gertrude de reconnaître Aurilly dans l'un de ces deux hommes. « Hélas, mademoiselle, ce sont eux !» murmura la pauvre fille. « Oui, répondis-je, toute frissonnante de terreur, et les cinq autres sont là pour leur prêter secours. « Mais il faudra qu'ils enfoncent la porte, » dit Gertrude, « et au bruit, les voisins accourront. » « Mais pourquoi veux-tu que les voisins accourent? Nous connaissent-ils et ont-ils quelque motif de se faire une mauvaise affaire pour nous défendre? Hélas, en réalité, Gertrude, nous n'avons de véritables défenseurs que le comte. « Eh bien, pourquoi refusez-vous donc toujours d'être comtesse ?» Je poussai un soupir. Pendant ce temps, les deux hommes qui avaient paru au coin de la rue Saint-Paul s'étaient glissés le long des maisons et se tenaient sous nos fenêtres. Nous entr'ouvrîmes doucement la croisée. « Oui, monseigneur, parfaitement sûr, c'est la cinquième maison à partir du coin de la rue Saint-Paul. Hé, la clé, tu penses qu'elle lira? J'ai pris l'empreinte de la serrure. » Je saisis le bras de Gertrude et je le serrai avec violence. « Une fois entré, c'est mon affaire. La suivante nous conduira. Votre Altesse possède dans sa poche une clé d'or qui vaut bien celle-ci. Ouvre donc, alors !» Nous entendîmes le grincement de la clé dans la serrure. Mais tout à coup, les hommes embusqués à l'angle de l'hôtel se détachèrent de la muraille et s'élancèrent vers le prince et vers Aurilly en criant « À mort, à mort !» Je n'y comprenais plus rien. Ce que je devinais seulement, c'est qu'un secours inattendu, inespéré, inouï nous arrivait. Je tombai à genoux et je remerciai le ciel. Mais le prince n'eut qu'à se montrer, le prince n'eut qu'à dire son nom, toutes les voix se turent, toutes les épées rentrèrent au fourreau, et chaque agresseur fit un pas en arrière. « Oui, oui, » dit Bussy, « ce n'était point au prince qu'ils en voulaient, c'était à moi. » En tout cas, reprit Diane, cette attaque éloigna le prince. Nous le vîmes se retirer par la rue de Jouy, tandis que les cinq gentilshommes de l'embuscade allaient reprendre leur poste au coin de l'hôtel des Tournelles. Il était évident que pour cette nuit, du moins, le danger venait de s'écarter de nous, car ce n'était point à moi qu'en voulaient les cinq gentilshommes. Mais nous étions trop inquiètes et trop émues pour ne pas rester sur pied. Nous demeurâmes debout contre la fenêtre et nous attendîmes quelque événement inconnu que nous sentions instinctivement s'avancer à notre rencontre. L'attente fut courte. Un homme à cheval parut, tenant le milieu de la rue Saint-Antoine. C'était sans doute celui que les cinq gentilshommes embusqués attendaient, car en l'apercevant, ils crièrent « Aux épées, aux épées !» et ils s'élancèrent sur lui. « Vous savez tout ce qui a rapport à ce gentilhomme, dit Diane, puisque ce gentilhomme, c'était vous. » « Au contraire, madame, dit Bussy, qui, dans ce récit de la jeune femme, espérait tirer quelques secrets de son cœur. Au contraire, je ne sais rien que le combat, puisqu'après le combat, je m'évanouis. » « Il est inutile de vous dire, reprit Diane avec une légère rougeur, l'intérêt que nous prîmes à cette lutte si inégale et néanmoins si vaillamment soutenue. » Chaque épisode du combat nous arrachait un frissonnement, un cri, une prière. Nous vîmes votre cheval faiblir et s'abattre, nous vous crûmes perdus, mais il n'en était rien. Le brave Bussy méritait sa réputation. Vous tombâtes debout et n'eûtes pas même besoin de vous relever pour frapper vos ennemis. Enfin, entourés, menacés de toutes parts, vous fîtes retraite comme le lion, la face tournée à vos adversaires, et vous vîtes vous appuyer à la porte. Alors la même idée nous vint à Gertrude et à moi, c'était de descendre pour vous ouvrir. Elle me regarda. « Oui, lui dis-je, et tous deux nous nous élançâmes vers l'escalier. Mais comme je l'ai déjà dit, nous nous étions barricadés en dedans, il nous fallut quelques secondes pour écarter les meubles qui obstruaient le passage, et au moment où nous arrivions sur le palier, nous entendîmes la porte de la rue qui se refermait. Nous restâmes toutes deux immobiles. Quelle était donc la personne qui venait d'entrer? Comment était-elle entrée? Je m'appuyai à Gertrude et nous demeurâmes muettes et dans l'attente. Bientôt des pas se firent entendre dans l'allée. Ils se rapprochaient de l'escalier. Un homme parut, chancelant, tendit les bras et tomba sur les premières marches en poussant un sourd gémissement. Il était évident que cet homme n'était point poursuivi, qu'il avait mis la porte, si heureusement laissée ouverte par le duc d'Anjou, entre lui et ses adversaires, et que, blessé dangereusement, à mort peut-être, il était venu s'abattre au pied de l'escalier. En tout cas, nous n'avions rien à craindre, et c'était au contraire cet homme qui avait besoin de notre secours. « La lampe, dis-je à Gertrude, elle courut et revint avec la lumière. Nous ne nous étions point trompés, vous étiez évanouis. Nous vous reconnûmes pour le brave gentilhomme qui s'était si vaillamment défendu, et sans hésiter, nous décidâmes à vous porter secours. En un instant, vous fûtes apporté dans ma chambre et déposé sur le lit. » Vous étiez toujours évanoui. Les soins d'un chirurgien paraissaient urgents. Gertrude se rappela avoir entendu raconter une cure merveilleuse faite quelques jours auparavant par un jeune docteur de la rue Beautreilly. Elle savait son adresse. Elle m'offrit de l'aller quérir. Mais, lui dis-je, ce jeune homme peut nous trahir. Soyez tranquille, dit-elle, je prendrai mes précautions. C'était une fille vaillante et prudente à la fois, continua Diane. Je me fiais donc entièrement à elle. Elle prit de l'argent, une clé et mon poignard, et je restais seul près de vous et priant pour vous. Hélas, dit Bussy, je ne connaissais pas tout mon bonheur, madame. Un quart d'heure après, Gertrude revint. Elle ramenait le jeune docteur. Il avait consenti à tout et la suivait, les yeux bandés. Je demeurai dans le salon tandis qu'on l'introduisait dans la chambre. Là, on lui permit d'ôter le bandeau qui lui couvrait les yeux. « Oui, dit Bussy, c'est en ce moment que je repris connaissance et que mes yeux se portèrent sur votre portrait et qu'il me sembla que je vous voyais entrer. J'entrai en effet, mon inquiétude l'emportait sur la prudence. » J'échangeai quelques questions avec le jeune docteur, il examina votre blessure, me répondit de vous, et je fus soulagé. Tout cela était resté dans mon esprit, dit Bussy, mais comme un rêve reste dans la mémoire, et cependant quelque chose me disait là, ajouta le jeune homme en mettant la main sur son cœur, que je n'avais point rêvé. Lorsque le chirurgien eut pansé votre blessure, il tira de sa poche un petit flacon contenant une liqueur rouge, en versa quelques gouttes sur vos lèvres. C'était, me dit-il, un élixir destiné à vous rendre le sommeil et à combattre la fièvre. Effectivement, un instant après avoir avalé ce breuvage, vous fermâtes les yeux de nouveau et vous retombâtes dans l'espèce d'évanouissement dont un instant vous étiez sorti. Je m'effrayais, mais le docteur me rassura. Tout était pour le mieux, me dit-il. Il n'y avait plus qu'à vous laisser dormir. Gertrude lui couvrit de nouveau les yeux d'un mouchoir et le reconduisit jusqu'à la porte de la rue Beautreilly. Seulement, elle crut s'apercevoir qu'il comptait les pas. En effet, madame, dit Bussy, il les avait comptés. Cette supposition nous effraya. Ce jeune homme pouvait nous trahir. Nous résolûmes de faire disparaître toute trace de l'hospitalité que nous vous avions donnée. Mais d'abord, l'important était de vous faire disparaître, vous. Je rappelai tout mon courage. Il était 2 heures du matin, les rues étaient désertes. Gertrude répondit de vous soulever. Elle y parvint, je l'aidai, et nous vous emportâmes jusque sur les talus des fossés du temple. Puis nous revînmes tout épouvantés de cette hardiesse qui nous avait fait sortir, deux femmes seules, à une heure où les hommes eux-mêmes sortaient accompagnés. Dieu veillait sur nous, nous ne rencontrâmes personne et rentrâmes sans avoir été vus. En rentrant, je succombai sous le poids de mon émotion et je m'évanouis. « Oh, madame, madame, » dit Bussy en joignant les mains, « comment reconnaîtrai-je jamais ce que vous avez fait pour moi ?» Il se fit un instant de silence pendant lequel Bussy regardait ardemment Diane. La jeune femme, le coude appuyé sur une table, avait laissé retomber sa tête dans sa main. Au milieu de ce silence, on entendit vibrer l'horloge de l'église Sainte-Catherine. « Ah, 2 heures, » dit Diane en tressaillant, « 2 heures, et vous ici ?»« Oh, madame, » supplia Bussy, « ne me renvoyez pas sans m'avoir tout dit, ne me renvoyez pas sans m'avoir dit par quels moyens je puis vous être utile. Supposez que Dieu vous ait donné un frère et dites à ce frère ce qu'il peut faire pour sa sœur. »« Hélas, plus rien maintenant, » dit la jeune femme, « il est trop tard. » Qu'arriva-t-il le lendemain, demanda Bussy, que fîtes-vous pendant cette journée où je ne pensais qu'à vous, sans être sûr cependant que vous n'étiez pas un rêve de mon délire, une vision de ma fièvre? Pendant cette journée, reprit Diane, Gertrude sortit et rencontra Aurilly. Aurilly était plus pressant que jamais, il ne dit pas un mot de ce qui s'était passé la veille, mais il demanda au nom de son maître une entrevue. Gertrude parut consentir, mais elle demanda jusqu'au mercredi suivant, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, pour me décider. Aurilly promit que son maître se ferait violence jusque-là. Le soir, monsieur de Montsoreau revint. Nous avions donc 3 heures devant nous. Nous lui racontâmes tout, excepté ce qui avait rapport à vous. Nous lui dîmes que la veille, le duc avait ouvert la porte avec une fausse clé, mais qu'au moment même où il allait entrer, il avait été chargé par 5 gentilshommes, au milieu desquels étaient messieurs d'Épernon et de Quélus. J'avais entendu prononcer ces 2 noms, et je les lui répétai. « Oui, oui, » dit le comte, « j'ai déjà entendu parler de cela. Ainsi, il a une fausse clé, je m'en doutais. »« Ne pourrait-on changer la serrure ? » demandai-je. « Il en ferait faire une autre, » dit le comte. « Poser des verrous à la porte. » Il viendra avec 10 hommes et enfoncera portes et verrous. Mais cet événement qui devait vous donner, m'avez-vous dit, tout pouvoir sur le duc, est retardé, indéfiniment peut-être. Je restai muette et, la sueur au front, je ne me dissimulais plus qu'il n'y avait d'autre moyen d'échapper au duc d'Anjou que de devenir la femme du comte. Monsieur, lui dis-je, le duc, par l'organe de son confident, s'est engagé à attendre jusqu'à mercredi soir. Moi, je vous demande jusqu'à mardi. Mardi soir, à la même heure, madame, dit le comte, je serai ici. Et, sans ajouter une parole, il se leva et sortit. Je le suivis des yeux, mais au lieu de s'éloigner, il alla à son tour se placer dans cet angle sombre du mur des tournelles et parut décidé à veiller sur moi toute la nuit. Chaque preuve de dévouement que me donnait cet homme était comme un nouveau coup de poignard pour mon cœur. 2 jours s'écoulèrent avec la rapidité d'un instant. Rien ne troubla notre solitude. Maintenant, ce que je souffris pendant ces 2 jours, en entendant se succéder le vol rapide des heures, est impossible à décrire. Quand la nuit de la seconde journée vint, j'étais atterré. Tout sentiment semblait petit à petit se retirer de moi. J'étais froide, muette, insensible en apparence comme une statue. Mon cœur seul battait, le reste de mon corps semblait avoir cessé de vivre. Gertrude se tenait à la fenêtre. Moi, assise où je suis, de temps en temps seulement, je passais mon mouchoir sur mon front mouillé de sueur. Tout à coup, Gertrude étendit la main de mon côté, mais ce geste qui autrefois m'eût fait bondir me trouva impassible. « Madame, dit-elle, eh bien, demandai-je, 4 hommes, je vois 4 hommes, ils s'approchent de ce côté, ils ouvrent la porte, ils entrent. » « Qu'ils entrent, répondis-je sans faire un mouvement. « Mais ces 4 hommes, c'est sans doute le duc d'Anjou, Aurilly et les 2 hommes de leur suite. » Je tirai pour toute réponse mon poignard et le plaçai près de moi sur la table. « Oh, laissez-moi voir du moins, dit Gertrude en s'élançant vers la porte. « Vois, répondis-je. Un instant après, Gertrude rentra. « Mademoiselle, dit-elle, c'est monsieur le comte. » Je remis mon poignard dans ma poitrine sans prononcer une seule parole. Seulement je tournai la tête du côté du comte. Sans doute il fut effrayé de ma pâleur. « Que me dit Gertrude ?» s'écria-t-il. « Vous m'avez pris pour le duc, et que, si c'eût été le duc, vous vous fussiez tué. » C'était la première fois que je le voyais ému. Cette émotion était-elle réelle ou factice ? « Gertrude a eu tort de vous dire cela, monsieur, répondis-je. Du moment où ce n'est pas le duc, tout est bien. » Il se fit un instant de silence. « Vous savez que je ne suis pas venu seul, dit le comte. Gertrude a vu 4 hommes. Vous doutez-vous qui ils sont ? Je présume que l'un est prêtre et que les 2 autres sont nos témoins. Alors vous êtes prête à devenir ma femme ? N'est-ce pas chose convenue ? Seulement je me souviens du traité. Il était convenu encore qu'à moins d'urgence de ma part, je ne me marierais pas hors de la présence de mon père. » « Je me rappelle parfaitement cette condition, mademoiselle, mais croyez-vous qu'il y ait urgence ?»« Oui, je le crois. »« Eh bien ?»« Eh bien, je suis prête à vous épouser, monsieur, mais rappelez-vous ceci, c'est que je ne serai réellement votre femme que lorsque j'aurai revu mon père. » Le comte fronça le sourcil et se mordit les lèvres. « Mademoiselle, dit-il, mon intention n'est point de forcer votre volonté. » Si vous avez engagé votre parole, je vous rends votre parole. Vous êtes libre. Cependant, il s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil dans la rue. Seulement, dit-il, regardez. Je me levai, mû par cette puissante attraction qui nous pousse à nous assurer de notre malheur, et au-dessous de la fenêtre, j'aperçus un homme enveloppé d'un manteau qui semblait chercher un moyen de pénétrer dans la maison. « Oh, mon Dieu, dit Bussy, et vous dites que c'était hier ?»« Oui, comte, hier, vers les 9 heures du soir. » »« Continuez, dit Bussy. » Au bout d'un instant, un autre homme vint rejoindre le premier. Celui-là tenait une lanterne à la main. « Que pensez-vous de ces 2 hommes ?» me demanda monsieur de Montsoreau. « Je pense que c'est le duc et son affidé, répondis-je. » Bussy poussa un gémissement. « Maintenant, continua le comte, ordonnez, faut-il que je reste, faut-il que je me retire ?» Je balançai un instant. « Oui, malgré la lettre de mon père, malgré la promesse jurée, malgré le danger présent, palpable, menaçant, oui, je balançai, et si ces 2 hommes n'eussent point été là... Oh, « malheureux que je suis !» s'écria Bussy. « L'homme au manteau, c'était moi, et celui qui portait la lanterne s'était remis le haut-doigt, ce jeune docteur que vous avez été envoyé chercher. »« C'était vous ?» s'écria Diane avec stupeur. Oui, moi, qui de plus en plus convaincu de la réalité de mes souvenirs, cherchais à retrouver la maison où j'avais été recueilli, la chambre où j'avais été transporté, la femme, ou plutôt l'ange qui m'était apparu. Oh, j'avais donc bien raison de m'écrier que j'étais un malheureux. Et Bussy demeura comme écrasé sous le poids de cette fatalité qui s'était servi de lui pour déterminer Diane à donner sa main au comte. Ainsi, reprit-il au bout d'un instant, vous êtes sa femme? Depuis hier, répondit Diane. Et il se fit un nouveau silence qui n'était interrompu que par la respiration haletante des deux jeunes gens. Mais vous, demanda tout à coup Diane, comment êtes-vous entré dans cette maison? Comment vous trouvez-vous ici? Bussy lui montra silencieusement la clé. Une clé? S'écria Diane. D'où vient cette clé? Qui vous l'a donnée? Gertrude n'avait-elle pas promis au prince de l'introduire près de vous ce soir? Le prince avait vu monsieur de Montsoreau et m'avait vu moi-même, comme monsieur de Montsoreau et moi l'avions vu. Il a craint quelque piège et m'a envoyé à sa place. Et vous avez accepté cette mission? Dit Diane avec le ton du reproche. C'était le seul moyen de pénétrer près de vous. Serez-vous assez injuste pour m'en vouloir d'être venu chercher une des plus grandes joies et une des plus grandes douleurs de ma vie? Oui, je vous en veux, dit Diane, car il eût mieux valu que vous ne me revissiez pas et que, ne me revoyant pas, vous m'oubliassiez. Non, madame, dit Bussy, vous vous trompez. C'est Dieu, au contraire, qui m'a conduit près de vous pour pénétrer au plus profond de cette trame dont vous êtes victime. Écoutez, du moment où je vous ai vu, je vous ai voué ma vie. La mission que je me suis imposée va commencer. Vous avez demandé des nouvelles de votre père. Oui, s'écria Diane, car en vérité, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Eh bien, dit Bussy, je me charge de vous en donner, moi. Gardez seulement un bon souvenir à celui qui, à partir de ce moment, va vivre par vous et pour vous. Mais cette clé, dit Diane avec inquiétude, cette clé, dit Bussy, je vous la rends, car je ne veux la tenir que de votre main. Seulement, je vous engage ma foi de gentilhomme que jamais sœur n'aura confié la clé de son appartement à un frère plus dévoué et plus respectueux. Je me fie à la parole du brave Bussy, dit Diane. Tenez, monsieur. Et elle rendit la clé au jeune homme. Madame, dit Bussy, dans 15 jours, nous saurons ce qu'est véritablement monsieur de Montsoreau. Et saluant Diane avec un respect mêlé à la fois d'ardent amour et de profonde tristesse, Bussy disparut par les montées. Diane inclina la tête vers la porte pour écouter le bruit des pas du jeune homme qui s'éloignait, et ce bruit avait cessé depuis longtemps que, le cœur bondissant et les yeux baignés de larmes, elle l'écoutait encore.